N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal.
D'où venez-vous, madame?
Je viens du ciel.
Mais que venez-vous faire ici?
Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux.
Vous dites que vous venez du ciel? Et moi, est-ce que j'irai au ciel?
Oui, tu iras.
Et Jacinta?
Elle aussi.
Et Francisco?
Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets.
Bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour cette émission sur l'appel du message de Fatima d'après les écrits de Sœur Lucie depuis le Carmel de Coimbra au Portugal. Prions le Seigneur et notre Mère du Ciel en union avec les pastoraux de Fatima, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Le 13 mai 1982, un an après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, Saint Jean-Paul II, pèlerin à Fatima, parlait du message confié par la Vierge Marie à Jacinthe, François et Lucie. Il disait « Si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est surtout parce qu'il contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même. » Marie est venue à Fatima évangéliser notre siècle.
Lucie nous confie.
Je m'adresse à ceux qui ont la foi, comme à ceux qui n'ont pas le bonheur d'avoir ce don de Dieu, car nous sommes tous des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, s'acheminent vers l'éternité. Innombrables sont les lettres que vous m'avez envoyées, pleines de questions et de demandes. J'aurais aimé répondre à chacune en particulier. Mais comme cela m'est impossible, je réponds à toutes en général avec ces appels du message de Fatima, message que Dieu a voulu me confier à l'intention de tous. Je le fais parce que je suis certaine que c'est la volonté de Dieu, reconnue par les instances autorisées. Et j'offre pour tous ce sacrifice que ce travail demandera de moi.
Maintenant, je désire passer en revue le message que le bon Dieu, par sa très sainte mère, a confié aux humbles pastoraux de la Cova d'Airia, dans le but de renouveler ses appels de toujours en faveur de l'humanité d'aujourd'hui, notamment les pèlerins de Fatima. Dire pèlerin de Fatima, c'est dire pèlerin de la paix. Je crois même qu'il existe une langue dans laquelle Fatima veut dire paix. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des pèlerins de la paix. Nous désirons des jours de paix, une vie de paix. Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la loi de Dieu comme norme et guide de nos pas. Or, tout le message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette loi divine. Nous allons donc le suivre, pas à pas, et il nous indiquera le chemin que nous devons parcourir.
Quand les apparitions eurent lieu, je ne connaissais pas encore cette loi. C'est à peine si j'en avais quelque idée. Une idée très imparfaite et limitée, comme tout autre enfant simple et ignorant, tel que je l'étais à l'époque, un enfant ne sachant ni lire ni écrire, vivant dans un milieu totalement dépourvu de culture et de science. Et quoique plus tard j'ai vécu dans des milieux plus cultivés, je dois avouer que j'ai acquis cette connaissance très lentement grâce à la lumière que Dieu m'a donnée au fur et à mesure. En effet, seulement bien longtemps après ces événements et après les avoir racontés, j'ai eu la permission de lire le livre de la Sainte Écriture. Et ce n'est qu'alors que je compris le vrai sens du message, même si je l'avais déjà compris avant, mais de façon moins concrète.
Tenez, gardons une part si un pauvre venait à passer.
Mais si ce que nous donnons à un pauvre nous manque plus tard.
Ce que nous donnons aux pauvres ne manquera jamais.
Hier, papa a donné un saucisson à un pauvre. Le pauvre a mis ses mains comme ça en regardant papa et a récité un Ave Maria. Il a dit, pour vous et votre petite fille, que le Seigneur vous bénisse.
Et pour moi, rien.
Mais enfin, pour toi aussi, parce que tout ce qui est à moi est à toi et à notre famille.
Ah, comme ça, c'est bien.
Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez tous ceux de cette maison. Bénissez le travail que nous avons fait aujourd'hui et le repas que nous allons prendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Maria, passe-moi la chemise du Père.
Rosa, allons, Maria Rosa, tu te fatigues en voulant soigner tout le monde.
C'est en faisant le bien que Dieu nous accordera sa miséricorde.
Appel à la sanctification de la famille.
Lucie, peut-on aujourd'hui écouter des enfants, des parents, des grands-parents sans se poser des questions sur l'évolution de la famille? Comment définir la notion de famille à notre époque? Aux yeux des adultes et des enfants, quels en sont les enjeux, les attentes? L'évolution des mœurs met-elle les fondements en péril? Quel rôle joue-t-elle ou ne joue-t-elle plus sur le plan de la transmission et particulièrement celle de la foi? La famille, dans l'esprit des personnes, commence à trois, non à deux. Ma famille, me dit cette petite fille, c'est chez mes grands-parents. Là, je retrouve mes cousins. À la maison, il y a juste maman et moi. Ce sont les enfants qui créent cette entité et non l'alliance. Ma mère va avoir un enfant avec son compagnon. On va vraiment être une famille, me dit ce jeune adolescent. J'attends mon deuxième enfant. Là, j'ai l'impression de fonder une famille. Jusque-là, on était un couple avec un enfant, me dit ce jeune adulte avec fierté. Le couple ne se définit pas comme une famille. De même, l'entité mère-enfant, s'il n'y a pas de père, ne se perçoit pas non plus comme une famille à part entière. Peux-tu nous éclairer, Lucie?
Dieu a voulu conclure son message à Fatima au mois d'octobre 1917 par trois apparitions que je crois être autant d'appels qui nous sont adressés pour que nous y réfléchissions au cours de notre pèlerinage sur cette terre. Pendant que le peuple stupéfait regardait le disque solaire devenir tout pâle devant la lumière de la présence de Dieu, les humbles enfants ont vu à côté du soleil trois apparitions différentes et pour nous pleines de sens. Je ne sais pas si les théologiens et les penseurs de l'Église ont déjà attribué à ces apparitions un sens ou une interprétation spéciale. Je suis sûre qu'ils sauront le faire dans des termes plus précis et dictés par la doctrine sacrée. Ici, je le fais simplement pour répondre à ce qui m'a été demandé et selon ce que me permettent mon humble ignorance et ma pauvreté. Je vais donc dire ce que Dieu, me semble-t-il, a voulu nous indiquer par ces trois manifestations. La première a été l'apparition de la Sainte Famille, Notre-Dame et l'enfant Jésus dans les bras de Saint Joseph bénissant le peuple. En ces temps où la famille est si souvent mal comprise sur la forme établie par Dieu et où elle est attaquée par des doctrines erronées et opposées à la finalité pour laquelle le divin Créateur l'a instituée, est-ce que Dieu n'aurait pas voulu attirer notre attention sur l'objectif qui a été le sien en instituant la famille dans le monde ? Dieu a confié à la famille une mission sacrée de coopération avec lui dans l'œuvre de la création. Cette décision de vouloir associer ces pauvres créatures à son œuvre créatrice est une grande manifestation de la bonté paternelle de Dieu. Il veut ainsi les rendre participantes à son pouvoir créateur. Il veut se servir de ses enfants pour la multiplication de nouvelles vies afin qu'elles fleurissent sur la terre avec une destinée céleste.
Lucie, il semble que nous revenions dans l'esprit des gens à une notion de famille proche de celle des Romains. Elle est constituée par tous ceux qui vivent sous le même toit. Mon frère, me dit ce jeune garçon, adore les fringues. Il me fait découvrir cet univers. Le frère est le fils de l'ami de sa mère. Mais comme ils vivent tous ensemble et qu'il ne voit pas ses vrais demi-frères, il considère que c'est lui son frère. On vivait tous dans une grande maison. Cela formait pour moi une famille. L'amant de ma mère s'est comporté comme un père pour moi. Il y a deux jeunes que ma mère hébergeait qui ont été mes frères. Quand ma mère est partie, je n'ai pas compris. C'était comme un divorce avec toute une partie de moi. Pierre a 50 ans, mais cette déchirure reste très vive pour lui. L'alliance est plus une élection affective, une vie partagée, qu'une inscription dans une société. Le mariage est un choix, il n'est plus une obligation. Pour certains, ils font de l'engagement et sont sérieux. Il va avec le désir d'enfant. Il est le premier acte de fondation d'un projet de famille. Pour beaucoup d'autres jeunes, le non-mariage est une éthique de cohérence avec eux-mêmes.
Le divin Créateur a voulu ainsi confier à la famille une mission sacrée qui fait de deux êtres un seul, dans une unité telle qu'aucune séparation entre eux ne puisse être admise. C'est de cette union que Dieu veut faire germer d'autres êtres, comme des plantes, il fait germer les fleurs et les fruits. Dieu établit le mariage comme un lien indissoluble. Après le sacrement du mariage, l'union entre les deux époux est définitive et n'admet pas de partage. Elle est indissoluble aussi longtemps que tous deux sont en vie. Dieu l'a ainsi établi et décidé. Nous lisons dans le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa, Genèse 1:27. Oui, deux, mais qui ne forment qu'un. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair, Genèse 2:24. Cela est une loi de Dieu que Jésus-Christ a confirmée et remise en valeur face à des choix humains qui sont de son temps allés dans le sens opposé. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme et qu'il a dit « Ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. » Matthieu 19, 4, 6. Telle est la loi du mariage. Tous deux, une fois unis avec la bénédiction de Dieu, forment entre eux une seule chair, et cette union n'admet pas de séparation. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils sont une seule chair par le lien de l'amour qui mène au don mutuel, dans le même idéal de coopération avec l'action de Dieu dans l'œuvre de la création. Ce don exige sacrifice et immolation, comme l'exige tout don, et met à la compréhension, à l'excuse, au pardon. C'est ainsi qu'un couple se consolide, se sanctifie et rend gloire à Dieu.
Lucie, les liens de nos jours peuvent être de sang, mais aussi purement affectifs. Le modèle qui serait en vigueur serait celui de l'adoption. On adopte comme père son beau-père et comme sœur sa co-sœur, plus que sa demi-sœur. La séparation des concubins entraîne une désadoptation qui est vécue comme un déchirement. Exemple. J'adorais la mère de l'ami de maman. Je pensais qu'elle nous aimait aussi, qu'elle nous considérait comme ses petits-enfants à part entière, comme les autres. C'est comme cela qu'elle se comportait avec nous. Quand ma mère s'est séparée de son ami, on n'a plus eu, mon frère et moi, du jour au lendemain de nouvelles, comme si on n'existe plus. Elle n'aurait pu nous appeler au téléphone, elle connaissait nos horaires, elle savait quand ma mère n'était pas là. On s'est senti rayé de son cœur. Je n'ai jamais plus fait confiance à un adulte après. Bien des jeunes adultes célibataires considèrent que leur famille, c'est leur groupe d'amis. Sur le plan conscient, la famille aujourd'hui n'est plus vécue comme un maillon constitutif de la société, mais un choix personnel fait sur des bases affectives. Les enfants sont appelés auprès du juge à choisir auprès de qui ils veulent aller. Ils font le deuil d'un parent vivant qui ne s'occupe pas d'eux et en élisent un autre de leur choix.
Un couple doit être comme un jardin où s'épanouissent de nouveaux boutons de rose qui apportent au monde la fraîcheur de l'innocence, le regard pur et confiant dans la vie et le sourire de la jeunesse joyeuse et candide. Ce n'est qu'ainsi que Dieu prend plaisir à son œuvre créatrice, la bénit et pose sur elle son regard de père. Se conduire autrement, c'est détourner l'œuvre de Dieu de sa fin spécifique, c'est bouleverser les plans de Dieu, c'est ne pas accomplir et négliger la mission que Dieu leur a confiée. C'est pourquoi, dans le message de Fatima, Dieu nous appelle à tourner notre regard vers la Sainte Famille de Nazareth, où il a voulu lui-même naître, grandir et se sanctifier, afin de nous présenter un modèle à imiter dans notre pèlerinage de la terre jusqu'au ciel. L'évangéliste Saint Luc, après nous avoir raconté comment Jésus-Christ, déjà adolescent, est monté au temple de Jérusalem, a perdu ses parents et y a été retrouvé par eux 3 jours après, dit encore, « Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Luc 2, 51-52.
Lucie, chaque famille a une histoire. Chaque génération instruit la suivante. Cet enseignement involontaire est partie intégrante de chaque échange, qu'il s'agisse de pouvoir, d'intimité, de contrôle, d'anxiété, de différenciation ou de satisfaction des désirs. Le couple développera ensemble une structure qui ressemble aux familles d'origine, mais qui n'appartient qu'à lui. Ainsi, chaque famille est donc à la fois un maillon d'une chaîne de transmission et une création qui lui est propre. Ces échanges sont dynamiques. La réalité psychique des parents modèle celle des enfants. Celle-ci n'est jamais modelée de façon passive. Il n'y a jamais transmission ni réception passive d'un corps étranger venu d'une génération antérieure. La vie psychique de tout nouvel arrivant au monde se construit en interrelation avec la vie psychique de ses parents et ascendants. Les objets internes de ceux-ci constituent les objets internes de l'enfant. La plupart de ces opérations sont inconscientes. Aussi, j'aimerais mieux parler d'influence qui désigne une action volontaire ou non qu'une personne exerce sur l'autre. Si la structure familiale influence à travers ses modèles internes ses mythes personnels, comment cela doit-il se jouer pour le religieux ? L'aspiration spirituelle est propre à l'humain. Elle se traduit par des symboles, des rites, des textes qui se vivent dans une communauté partageant la même croyance. Si on définit le religieux comme un certain nombre de pratiques et rituels qui tracent un lien d'union entre les hommes et Dieu, si on l'inscrit aussi dans une révélation contenue dans des textes, nous voyons que la tradition religieuse sera pour le sujet croyant un objet interne auquel seront attachées des images, des affects, du dynamisme et du verbal, et qui sera donc présent dans l'inconscient du lien mère-enfant si cette dernière est croyante. En même temps, dans la religion catholique, la foi suppose une adhésion personnelle. Aussi, la transmission de la religion supposera un ensemble de connaissances enseignées aux enfants de manière consciente ou non, et une décision personnelle. Comment tout cela doit-il se jouer aujourd'hui dans nos familles, Lucie ?
Les parents qui n'inculquent pas à leurs enfants dès qu'ils sont tout petits la connaissance de Dieu et de ses préceptes, en leur apprenant à s'en souvenir et à les pratiquer, n'accomplissent pas les devoirs de la mission que Dieu leur a confiée. C'est une loi que Dieu a prescrite à son peuple. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout, Deutéronome 6, 6, 7. Les parents qui négligent ce précepte du Seigneur se rendent responsables de l'ignorance de leurs enfants et des égarements produits par cette ignorance. Voilà très souvent la cause de la vie désordonnée de ces enfants qui torturent les dernières années de la vie de leurs parents en se perdant eux-mêmes. Ce qui vient d'être dit est valable même quand les parents confient leurs enfants à des éducateurs compétents, car ce qui se grave le plus profondément dans le cœur des enfants, c'est ce qu'ils apprennent entre les bras paternels et sur le sein de leur mère. Il n'y a rien qui puisse exempter les parents de cette mission sublime. Dieu la leur a confiée et ils en répondront devant Dieu.
Lucie, nous voyons se présenter aujourd'hui plusieurs cas de figure. Soit les parents sont croyants, soit les parents ne le sont pas, soit les parents ont reçu une éducation religieuse mais ne la pratiquent plus. Si la famille ou les ascendants sont croyants, l'appartenance au monde catholique fera partie du mythe familial. La famille fonctionne de deux manières, en un système ouvert ou fermé. Dans le système ouvert, chacun des membres peut se différencier sans mettre en danger le système familial. Les différences sont intégrées, transformées dans la famille. Cela est vrai pour l'évolution religieuse de chacun des membres ou celle de l'institution. Dans le système fermé, toute remise en cause des croyances met en péril l'appareil psychique familial. Exemple. Karine arrive désemparée. Sa fille veut épouser un Égyptien et se convertir à l'islam. Elle est catholique active et ne peut comprendre le choix de sa fille. Elle décide néanmoins de ne pas fermer la porte, d'accueillir, d'écouter. Lucien, lui, vit la même situation. Ma fille renie ses origines, elle ne remettra plus les pieds au domicile familial, dit-il. Quant à Catherine, l'évolution du monde actuel étant dangereuse, habitée par le mal, elle crée son propre groupe de catéchisme, supprime la télévision et refuse à ses enfants la lecture de livres comme Harry Potter. La transmission est vécue comme celle d'un objet interne figé, sacralisé, ne pouvant pas évoluer. Dans le système ouvert, la transmission est motrice de transformation. Les changements participent à la dynamique familiale. Que faire, Lucie ?
Les parents sont chargés de guider les premiers pas des enfants vers l'autel de Dieu, de leur apprendre à lever leurs mains innocentes pour prier, de les aider à rencontrer Dieu sur leur chemin et à suivre l'écho de sa voix. Cette mission, dont la responsabilité et l'importance sont si grandes, a été confiée par Dieu aux parents, et ils doivent s'en acquitter de telle façon que pendant leur vie, le souvenir des parents fasse toujours naître chez les enfants le souvenir de Dieu et de ses enseignements. Ce que recommande l'apôtre saint Paul. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, cela est juste. Honore ton père et ta mère, tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en les éduquant de corrections et de semonces qui s'inspirent du Seigneur. Éphésiens 6, 1, 4. Et dans la deuxième lettre de saint Jean, qui certainement a été adressée à une communauté ecclésiale, mais personnifiée sous les traits d'une mère, à la dame élue et à ses enfants, nous rencontrons sous la plume de l'apôtre un éloge que nous aimerions appliquer à tous les parents. Je me suis beaucoup réjouie d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame, bien que ce ne soit pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande, aimons-nous les uns les autres. 2 Jean 4, 5.
Lucie, les grands-parents, quand les parents ne pratiquent pas, ont aujourd'hui une place importante aux yeux des enfants. Ils regardent pour voir ce que la foi apporte à leur vie. Et que dire des grands-parents qui n'ont pas le droit de voir leurs petits-enfants parce qu'ils risqueraient de leur apporter la connaissance de Jésus, contraire aux idées des jeunes parents qui ne veulent plus suivre les enseignements reçus dans leur jeunesse? Exemple. Mes grands-parents, ils se disent catholiques. Ils vont à la messe, ils m'emmènent, ils se donnent le baiser de la paix et ensuite ils se disputent. Alors ça n'a pas de sens. En plus, je vois bien qu'ils jugent mes parents qui ne sont pas mariés, mais eux, ils s'aiment. Léa a 8 ans. Comme 8 ans arrive avec force chez son grand-père. Pour toi qui es croyant, c'est quoi Pâques? Quand la croyance fait partie de l'objet interne à la famille, il sera vivant, prêt à rentrer en résonance avec des objets extérieurs. Le problème étant que nos inconscients sont constitués par des images bien souvent archaïques ou déformées du religieux, je suis frappé par les images de diable qui dessinent les enfants alors que personne ne leur en parle, ou de l'idée d'un Dieu juge présent dans de nombreuses cures. Accueillir un enfant ou un adulte dans une démarche de foi. Que nous dit le message à ce sujet, Lucie?
Dans les familles qui se composent des parents et des enfants, il y a des devoirs à accomplir par les parents envers leurs enfants et réciproquement de ceux-ci envers ceux-là. Le livre de Ben Sira, après avoir dressé une liste de nombreux devoirs des enfants, conclut par cet appel à la mansuétude et à la douceur. « Mon fils, conduis tes affaires avec douceur et tu seras plus aimé qu'un homme munificent. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. Nombreux sont les gens hautains et fameux, mais c'est aux humbles qu'il révèle ses secrets, car grande est la puissance du Seigneur. Mais il est honoré par les humbles. » Ben Sira 3, 17, 20. Et l'apôtre Saint-Pierre insiste aussi pareillement, « Les jeunes, soyez soumis aux anciens, revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous révèle au bon moment de toutes vos inquiétudes. Déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez. » 1 Pierre 5, 5, 8. Ces paroles sont pour nous tous, mais spécialement pour les plus jeunes, à qui manque encore l'expérience de la vie. C'est pourquoi l'apôtre leur recommande d'être soumis, sobres et vigilants, pour ne pas être trompés par les illusions de la vie, par les appétits désordonnés de la nature ou par les séductions diaboliques du monde. Car, continue Saint-Pierre, votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
Lucie, si la croyance n'est pas le fruit d'un choix, la foi ne sera qu'un élément du système éducatif vécu comme absurde. Exemple. Mes parents, ils m'ont mis au cathé, mais eux, ils ne vont pas à la messe, ils ne pratiquent pas. Les parents de mon copain, musulman, eux, ils font le ramadan. Paul, 14 ans. Nous retrouvons pour la religion les mêmes comportements que pour l'éducatif. Les enfants, aujourd'hui, adhèrent à ce qui est cohérent entre les discours et les actes. Si les adultes ne s'engagent pas, comment les enfants peuvent-ils y croire? Autre exemple. Moi, mon grand-père, il est trop top. Quand je lui demande comment il est comme ça, il me parle de Jésus. Plus tard, moi, j'irai au cathé pour voir, me dit Jérôme, qui souffre de vivre avec sa mère seule. Cohérence, sens. Même si la foi s'inscrit dans une longue lignée de croyants, la transmettre, c'est la vivre. Sinon, comme pour la famille, les jeunes iront chercher dans des groupes une réponse à leur aspiration. Moi, je viens voir, dit cette petite fille à la dame catéchiste, parce que Julie vient et qu'elle trouve ça trop cool. Ou, j'étais paumée, je suis rentrée dans une église, là, un prêtre m'a souri, un groupe priait. J'ai senti une authenticité qui me réchauffait. J'entame une démarche de baptême. Les adolescents peuvent rejeter la pratique religieuse dans leur mouvement de restructuration, leur offrir d'autres lieux et importants à ce moment-là. Ils n'en restent pas moins attentifs à ce que véhicule le discours des parents. Certains ressentent l'appartenance catholique de leurs parents comme associée à une peur du monde d'aujourd'hui et à une morale. N'ayez pas peur, disait Saint Jean-Paul II. Transmettre la foi, c'est donc leur donner confiance et les envoyer au cœur du monde, les encourager à aller dans des rassemblements de jeunes, depuis le fraternel jusqu'au JMJ, pour qu'ils se nourrissent d'une foi qui se manifeste hors du cercle familial. Parler avec eux des valeurs catholiques et de leur pertinence d'aujourd'hui. Leurs films cultes, leurs BD sont une mine d'enseignement. Comment les sauver d'un jugement négatif sur ce monde qui est le leur? Que la famille fonde un chemin d'espérance, Lucie. Nos jeunes aujourd'hui ont de vraies valeurs. Ils ne parlent plus de charité, mais de solidarité. Ils montrent la même générosité que leurs aînés, mais ils ne l'expriment pas de la même manière. Ils n'agissent pas par devoir, mais par choix personnel. Ainsi, cette jeune adulte qui, un jour, m'annonce qu'elle part dans une ONG catholique pendant un an. Elle ne s'achète plus d'habits, ne va plus en boîte pour se payer le voyage. Elle va là parce qu'il y a un idéal et qu'elle ne supporte plus dans sa manière de vivre. Pourquoi catholique? Parce que sa grand-mère l'est et qu'elle a quelque chose de plus. Lucie de Fatima, rassure-nous.
Ferme dans la foi, l'espérance et la charité, nous avons tous à lutter pour remporter la victoire sur le mal et pour obtenir la paix, la joie et la béatitude dans la maison de notre Père qui est Dieu, et nous, tous unis, nous formons sa famille. Les enfants ne pourront jamais oublier ni mettre de côté le respect, la gratitude et l'aide qu'ils doivent à leurs parents qui sont, auprès d'eux, l'image de Dieu. En effet, comme ils se sont sacrifiés pour les élever, les éduquer et les mettre sur le chemin de la vie, les enfants aussi ont le devoir en retour de se sacrifier pour donner joie et tranquillité à leurs parents et en cas de besoin pour leur venir en aide. En sorte que tout soit fait avec amour vrai et le regard fixé en Dieu. Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que le Seigneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers. C'est le Seigneur Christ que vous servez, Colossiens 3, 23-24. Et nous nous réjouirons de son amitié, comme il l'a déclaré. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. Et qu'a-t-il ordonné? Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. C'est ainsi que la famille se sanctifie, grandit et devient prospère dans l'union, dans la fidélité, dans la compréhension mutuelle, dans le pardon qui engendre la paix, dans la joie, la confiance et l'amour. Ave Maria.
Merci Lucie de nous avoir laissé tous tes écrits. Ils nous sont très utiles aujourd'hui.
Le Saint-Père nous demande de revenir sur la prière la plus familière et la plus intime du peuple de Dieu, le « Je vous salue Marie », particulièrement sur la demande « Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs ». Marie répond toujours à cette invocation, elle écoute nos demandes, nous bénit avec son Fils dans les bras, nous apporte la tendresse de Dieu fait chair.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur pour que nous aidions nos frères dans la souffrance, afin que celle-ci change de signe. Au lieu d'être source de révolte, elle devient chemin de rédemption.
Prions ensemble avant de nous quitter afin de réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
En faisant le signe de la croix lentement, rappelons-nous la mort et la résurrection du Christ avec respect et adoration pour son sacrifice. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé ? Et de supplication pour la conversion des pécheurs?
Oui, nous le voulons.
Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'Appel de Fatima avec Bernard et Christine Storm. Aujourd'hui, l'appel à la sanctification de la famille. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.